Radio de la Paix, il est 18h. Le journal de 18h, Paul-Bénédicte Bolloux.
Il est 18h, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal de ce jeudi 6 juin. Le chef de l'État ivoirien adressera le 18 juin prochain un message sur l'état de la nation devant le Parlement qui sera réuni en congrès à Abidjan. Dans cette édition, vous suivrez l'intervention de la société civile sur leurs attentes. Politique minière, pétrolière et énergétique, enjeux, défis et perspectives. Ce thème était au centre de la tribune dénommée les rendez-vous du gouvernement organisés par le CICG à Abidjan. Les détails dans ce journal. En page internationale au Soudan, des militants pro-démocratie font état de ce jeudi de plus de 100 morts dans une attaque de paramilitaires avec de l'artillerie lourde, a indiqué hier mercredi le comité de résistance qui est une organisation locale. Et pour terminer, sport football éliminatoire mondial 2026, troisième journée, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent demain vendredi à 19h les panthères du Gabon au stade Amadou Gon-Coulibaly de Korogo. Le capitaine des éléphants Franck Yannick Kessié était face à la presse ce jeudi. Voilà pour l'essentiel. Le chef de l'État ivoirien sera devant les sénateurs et les députés ivoiriens le mardi 18 juin prochain. À cette occasion, Alassane Ouattara délivrera un discours sur l'état de la nation. Si pour la convention de la société civile de Côte d'Ivoire, les questions relatives à la cohésion sociale sont à prendre en compte, il n'en demeure pas moins que celles en rapport avec le renforcement du processus de réconciliation nationale et de dialogue politique soient très importantes en vue des élections présidentielle de 2025. À cet effet, écoutons Mahamadou Koumar, coordonnateur de la Convention de la Société Civile de Côte d'Ivoire.
Qu'il insiste sur la nécessité de renforcer la cohésion sociale. Et comme la réconciliation nationale est un processus, nous souhaiterons voir le chef de l'État insister sur des mesures à prendre pour renforcer à la fois la cohésion sociale et renforcer le processus de réconciliation nationale. Cela est important, comme l'a dit Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire moderne, la paix est le préalable à tout développement. La question de la cohésion sociale et de la réconciliation demeure encore le ventre mou, le talon d'Achille de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est important pour nous. Deuxième attente, qu'on fasse un point d'honneur au dialogue politique. Ça permet d'apaiser le climat sociopolitique. Alors, quant à la situation économique, les populations n'ont pas le sentiment de ressentir positivement ces efforts qui sont faits. Il revient au président de la République, avec son gouvernement, de travailler sérieusement dans ce sens. Nous pensons que la société civile n'est pas suffisamment prise en compte. La société civile ne bénéficie d'aucun appui, d'aucune subvention. Je pense que c'est des questions qu'il convient de regarder. Ce qui est important, c'est les élections qui vont venir en 2025. C'est extrêmement important et ça c'est une préoccupation de la société civile. Il faut que ces élections soient des élections régulières, rassurantes, des élections apaisées. La Côte d'Ivoire en a besoin.
Mahamadou Kouma, coordonnateur de la Convention de la Société Civile de Côte d'Ivoire. Du côté de la poésie, l'espoir repose sur les dispositions utiles en vue de prendre définitivement en compte les recommandations du dialogue social et un discours largement orienté sur le rassemblement et l'unité en vue de l'organisation d'élections présidentielles paisibles en 2025. Drissa Soulama, le coordonnateur de la poésie.
Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous pensons que déjà nous sommes à l'orée des élections de 2025. Notre souhait, c'est qu'il y ait un discours de paix, un discours de rassemblement, un discours qui participe effectivement à apaiser les cœurs des uns et des autres pour que nous puissions effectivement aller à des élections paisibles, transparentes et crédibles. Cela passe effectivement par non seulement le respect des institutions qui ont été mises en place, mais aussi par le consensus et le dialogue. Parce qu'on sait très bien qu'il y a eu le dialogue politique, le cinquième dialogue politique, mais il y a eu quand même des recommandations lors de ce dialogue politique. Mais aujourd'hui, toutes les recommandations n'ont pas été mises en œuvre. Mais il faut faire en sorte que ces recommandations soient mises en œuvre pour que nous ayons une élection apaisée. Voici en substance ce que nous pensons.
Brice Assoulamar, coordonnateur de la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire. Une cérémonie officielle de remise de corps de victimes de la crise post-électorale de 2010 a eu lieu hier mercredi à Abidjan en présence des familles endeuillées. La ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale a annoncé le soutien du chef de l'État à travers un don d'1 500 000 francs à chaque famille et la prise en charge des obsèques. Le point avec Christelle Yesso.
14, c'est le nombre de dépouilles de victimes de la crise post-électorale dont la levée a été faite en présence des familles.
C'est Diara Mamadou. Ah, je m'appelle, elle est parmi les 7 femmes victimes d'Abobo. On nous a officiellement remis, mais le 8 de ce mois, on nous restitue le corps. On va faire notre enterrement à notre manière. On va enfin faire notre deuil.
Le chef de l'État, représenté par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo, a pris l'engagement d'assurer tout ce qui concerne les funérailles des victimes en soutenant les familles endeuillées à hauteur d'1 500 000 francs CFA.
Ces 14 corps que nous recrutons ont été conservés après la crise post-électorale de 2010-2011 pour nécessité d'enquête et d'identification. Le président de la République a décidé cette issue. La prise en charge intégrale des frais de conservation à Ivossé, la prise en charge des frais de transport jusqu'au lieu d'inhumation, un accompagnement financier d'un montant de 1 500 000 à chaque famille pour le Yako et à l'organisation des obsèques.
Des victimes blessées de la crise espèrent la même attention de l'État.
Madame Bamba, j'ai été blessée pendant la crise. Il a annoncé que ceux qui ont perdu leurs parents, là, 1 500 000. Pour les blessés, ils vont voir après. On dit blessés graves, ils vont voir notre cas après.
Après la cérémonie officielle de levée de corps, les familles pourront récupérer leurs dépouilles à partir du 8 juin prochain, et ce, jusqu'à la fin du mois.
Le président du parti pro-Côte d'Ivoire pour la démocratie, la prospérité et la souveraineté, Kevin Fieni, souhaite pour la Côte d'Ivoire une république fédérale. Il a exprimé hier mercredi lors d'une conférence de presse au siège de ce parti politique à Abidjan. Kevin Fieni, le fond de son idée.
L'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait une réelle décentralisation, une réelle démocratie, une réelle prospérité, une réelle souveraineté. En somme, c'est de faire qu'il y ait beaucoup plus de pouvoir dans la main des prochains gouverneurs, avec un rang de chef d'État, bien sûr, quant à la gouvernance, à la gestion de leur État. Tout ça va contribuer à stimuler la saine concurrence. Voilà un peu l'idée. Pour éviter d'accumuler le pouvoir, pour éviter de concentrer certaines choses. Parce que quand on est plusieurs, c'est encore mieux que de tout avoir seul et gérer seul. Donc l'idée, c'est aussi ça, à travers des propositions d'abord. Pas comme ce qu'on fait, d'abord on a pris la décision et puis on demande à ce qu'on adopte. Non, toute proposition désormais dans une République fédérale doit être d'abord vraiment une vraie proposition avec grand P. Et laisser, je veux dire, les organes démocratiques pour se prononcer et inviter aussi la population à se prononcer avant toute décision. Ben, rien n'est perdu. La population, qu'elle reste confiante, la Côte d'Ivoire de demain sera encore meilleure.
Kevin Fieni, président du parti pro-Côte d'Ivoire pour la démocratie, la souveraineté et la prospérité. Comme annoncé à l'entame de ce 18h, Mamadou Sangafoa Koulibaly, ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole, était ce jeudi face à la presse nationale et internationale à l'auditorium de la Primature dans le cadre des rendez-vous du gouvernement. Le thème retenu était politique minière, pétrolière et énergétique, enjeux, défis et perspectives. Lors de son exposé, Mamadou Sangafoa Koulibaly est revenu sur le coût du kilowattheure de l'électricité en Côte d'Ivoire.
Dans le cas de l'électricité, on devrait être déjà à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on devrait au moins avoir le coût de revient. Parce que si on n'a pas le coût de revient, comme c'est le cas, le gap de 2 francs, parce que quand vous faites des bénéfices, plus vous vendez, vous gagnez. Mais quand vous faites des pertes, plus vous vendez, vous perdez. C'est le cas. La consommation de kilowattheure annuelle est aujourd'hui de 13 000 gigawattheures. En 2012, elle était autour de 6 000 gigawattheures. Donc si on perd 2 francs par kilowattheure, il faut multiplier ces 2 francs-là par 13 000 gigawattheures de ce qu'on perd. La deuxième chose, c'est qu'on aurait dû avoir le coût de revient et avoir quelque chose en plus du coût de revient. Pour faire quoi? Parce que quand on n'a pas le coût de revient, le privé qui nous a vendu l'électricité, on doit le payer. Même l'État, Côte d'Ivoire Énergie aussi produit, Petro aussi donne du gaz. Mais pour ces deux entités étatiques, nous sommes à des années d'arriéré de paiement. Pour les privés, 6 mois d'arriéré de paiement. Pour le gouvernement, le choix est clair. De deux choses l'une. Soit on garde cette position et dans quelques mois, Le résultat de ça, c'est ce que malheureusement beaucoup de pays africains vivent aujourd'hui, avec des coupures et des délaissages partout. Soit on prenait le choix d'aller dans cette direction, et vous pouvez imaginer que pour un gouvernement responsable, il est hors de question. Donc il y avait un effort à demander au niveau des consommateurs. Mais n'oublions pas que la demande croît. Il faut investir déjà dans le réseau existant pour qu'il ne se dégrade pas. Ensuite, avec les nouvelles demandes, il faut investir dans la production, dans le transport, dans la distribution.
Mamadou Sangafoua Koulibaly, ministre des Mines, de l'Énergie et du Pétrole. Les prévisions de la saison de la mousson ont, à travers le projet de prévision saisonnière dans les pays côtiers du Golfe de Guinée et la prévision saisonnière en Afrique soudano-sahélienne, était au centre d'un atelier du 3 au 4 juin au CERAUMOA au plateau. Cet atelier avait pour objectif de faciliter la compréhension des acteurs locaux et nationaux sur les prévisions de la mousson. Les détails avec Jean-Mélène Bitti.
Le chef du département études, développement et environnement à la Sodexam, Ekoulou Ferdinand, est revenu sur le but de cet atelier et le rôle de la Sodexam.
L'objectif de cet atelier est de permettre à nos populations de comprendre les bulletins des prévisions saisonnières que la Sodexam réalise afin que nos paysans puissent jeter les semences au bon moment, au bon endroit, afin que leur productivité soit augmentée.
Quelles sont les tendances pour la saison des pluies qui s'annonce à grands pas? Manois, Beaumeau, Véronique, chef bureau rédaction des risques de catastrophe à la Sodexam.
Les prévisions de cette année seront normales à tendance déficitaire par rapport à l'année dernière où on a eu des excédents. Quand on dit déficitaire, ça ne veut pas aussi dire qu'il n'y aura pas d'inondation. Parce qu'un jour de pluie peut créer une inondation, mais sans terme de cumul. C'est-à-dire tout au long de la saison, comment elle va se comporter, elle sera moindre que l'année dernière.
Participant à cet atelier, Traoré Meoyo, agent au ministère de la Santé, se dit satisfait.
Cet atelier est très important pour nous au niveau du ministère de la Santé parce que là, c'est un retour d'expérience, également un complément d'informations que nous venons d'avoir à travers cet atelier. Et donc, nous remercions les initiateurs et nous prions à ce que ce type d'atelier-là se fasse au moins plus d'une fois dans l'année en vue de pouvoir partager les expériences et acquérir de nouveaux réflexes.
Lors de cet atelier, la prévision saisonnière de mars à juin 2024 a été donné par la Sodexam.
Cette activité est organisée par l'Organisation météorologique mondiale en collaboration avec l'autorité du bassin de la Volta et le partenariat mondial de l'eau en Afrique de l'Ouest avec l'appui de la Sodexam. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD a procédé le jeudi 30 mai dernier à son siège à une remise de prix aux lauréats du séminaire sur les avancées de la recherche scientifique face au changement climatique. Pour ces distinctions, l'ASCAD entend mener des réflexions et proposer des solutions au dérèglement climatique. Le compte-rendu de Didier Blé.
Une remise de prix relative aux avancées de la recherche et de l'enseignement de la physique, c'est la meilleure voie pour installer en Côte d'Ivoire une culture scientifique durable. Professeur Antoine Ouassepo, président de l'ASCAD.
Les pays qui sont en avance aujourd'hui doivent beaucoup leur rang aux académies. Ce sont des institutions qui regroupent des savants de toutes disciplines et dont le rôle est de créer, installer ce qu'on appelle la culture scientifique et innovative.
4 prix au total ont été décernés au titre de communication. Dr Julien Baïnot a occupé la 3e place pour les impacts des émissions du secteur des énergies domestiques. Dr Youssouf Doumbia a raflé le 2e prix pour son étude comparative des peroxydes hybrides. Et le 1er prix est revenu au Dr Traoré Diakaridja du LASMES.
Je suis du LASMES, laboratoire des sciences de la matière et de l'énergie solaire. J'ai présenté une communication sur un générateur à aimant permanent. C'est un générateur électrique que nous avons construit. On a fait le rebobinage, fait des tests préliminaires. Donc, ce sont ces résultats qui ont été présentés. Ce générateur, il peut être utilisé à plusieurs niveaux. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'énergie éolienne, mais aussi, il peut être utilisé à partir de l'eau aussi.
Au titre des expositions, c'est le professeur Touré Siaka, membre de l'ASCAD, qui a été primé. Il a exposé au cours du séminaire une cuisinière solaire qui permet une ébullition de l'eau au bout de 10 minutes et la cuisson de n'importe quel aliment. Cette remise de prix fait suite à un séminaire organisé les 2 et 3 mai 2024 sur la recherche scientifique face au changement climatique.
La 17e édition de la semaine de la sécurité routière a été lancée hier mercredi à San Pedro avec pour thème la sécurité des usagers des 2 et 3 roues motorisées ou non motorisées dans la circulation routière. Thématique choisie à dessein pour renforcer la sensibilisation des usagers des 2 et 3 roues qui, malgré les sensibilisations, n'adoptent pas les comportements utiles en vue de réduire les accidents sur nos routes. Des détails avec Kofi Benson, notre correspondant dans le Bassa Sandra.
Après plus d'un an et demi d'activités de sensibilisation et de formation sur la sécurité routière, les usagers des 2 et 3 roues s'affichent comme les mauvais élèves de la classe, selon Akambi Abiboulaye, directeur régional des transports à San Pedro.
Parmi ceux qui respectent les feux tricolores, c'est les engins de 2 à 3 roues. On a l'impression que les feux tricolores, c'est pas fait pour eux. Même le piéton respecte les feux tricolores. Chaque fois, on répète les mêmes thèmes, mais ils ne changent pas. Durant cette semaine-là, nos équipes seront sur le terrain, à côté des forces, et aussi feront leur travail en vous donnant des contraventions pour ceux qui sont vraiment têtus. À San Pedro, tous les carrefours sont équipés de caméras. Mais lorsqu'on va commencer la vidéo-verbalisation, ne soyez pas surpris.
Pour le commissaire de police, Cissé Adama, de la cellule opérationnelle, cette semaine de sensibilisation, pour être efficace, sera accompagnée de répression.
À l'orée des fêtes de Tabassi, je voudrais interpeller la jeunesse à beaucoup de prudence. Parce que ce sont à ces occasions-là que nous avons un taux important d'accidents. La sensibilisation, certes, nous avons des résultats, mais il faut également pouvoir réprimer aussi.
Sidi Diaby, moniteur d'auto-école et formelle, une formation dans les auto-écoles est nécessaire pour tous les usagers des 2 et 3 roues.
En général, quand ils ont les moyens, ils seront payés les engins de roue d'abord, avant de savoir que sur la route, il y a des codes à respecter. C'est des jeunes gens qui sont sur les motos. Ils n'ont même pas 18 ans. Donc tout ça là aussi, il faut voir. Avant qu'un enfant se mette là, qu'il aille à l'auto-école. Sans casque, c'est hyper dangereux en cas de choc. La tête, a priori, doit être protégée. Sinon, on peut tout réparer, mais sauf là.
D'autant que la route a un langage et tout usager de la route doit respecter ce langage. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Grossesse en milieu scolaire, c'est aussi l'actualité en Côte d'Ivoire. Ce sont 4600 élèves qui sont tombés enceintes pour l'année scolaire qui vient de s'achever. C'est le constat fait par le Conseil national des droits de l'homme qui appelle les parents d'élèves et le gouvernement ivoirien à prendre leurs responsabilités pour endiguer ce phénomène ou du moins le faire chuter drastiquement. Le directeur des programmes et études thématiques du CNDH, Yapi Léonce Adon, joint par Francis Cassi.
La situation des grossesses en cours de scolarité s'aggrave depuis 3 ans. Nous faisons un monitoring de la situation. Donc, nous enregistrons les chiffres des grossesses depuis 2022. Et donc, depuis 2022, nous faisons chaque année la revue des chiffres. Aujourd'hui, nous avons 4600 cas de grossesse qui ont été constatés pour cette année 2023-2024. C'est croissant. Les causes sont diverses. Hein. C'est que les jeunes filles sont attirées par le luxe. Et donc, tout le monde veut paraître. Elles sont aussi souvent dans des difficultés financières. Ce qui fait qu'elles s'adonnent aux premiers venus et elles entretiennent des relations sexuelles avec des personnes. En fait, la pauvreté y est pour quelque chose parce que une jeune fille qui quitte son village pour la ville et se retrouve sans soutien de ses parents, elle est livrée à elle-même et souvent quand vous les interrogez, elles vous disent qu'elles ont faim. Et donc, le premier venu, elle s'y adonne. C'est tous les niveaux qui sont concernés. Il n'y a pas seulement que le secondaire, mais le primaire aussi est concerné.
Alors, et quelle est la région de la Côte d'Ivoire qui est en tête de ces cas de grossesse en milieu scolaire?
La première région, c'est la région de la Narwa, avec 409 grossesses qui ont été recensées. L'année dernière, c'était eux, et cette année, c'est encore la région de la Narwa.
Et est-ce que vous avez un appel particulier à lancer?
Oui, je voudrais lancer cet appel-là à l'endroit des parents surtout pour qu'ils prennent plus de responsabilités dans l'éducation de leurs enfants. Aussi, au niveau de l'État, il faut peut-être réfléchir à remettre en place les internats. Parce que à l'école primaire, par exemple, le phénomène est moins visible là-bas parce qu'il y a des cantines scolaires. À midi, elles peuvent s'alimenter et donc elles sont moins enclines à s'adonner aux premiers venus.
Yapi Léonce Adam, directeur des programmes et études thématiques du CNDH. Hors des frontières ivoiriennes, des militants pro-démocratie au Soudan ont fait état aujourd'hui jeudi d'une centaine de morts dans une attaque menée par un groupe paramilitaire contre un village. Une nouvelle violence et le bistrot. Le conflit sanglant qui déchire depuis plus d'un an ce pays menacé par la famine. Le comité de résistance de Madani rapporte plus de 104 morts ainsi que des centaines de blessés. Cette organisation locale, réseau d'entraide entre habitants, a assuré ce jeudi avoir établi ce bilan sur la base d'une communication communication préliminaire avec les habitants dans le centre du Soudan. Les habitants du comité avaient également diffusé des images sur les réseaux sociaux montrant une rangée de linceuls blancs disposés sur un terrain. Ils affirment que les paramilitaires ont envahi le centre du pays, entraînant la fuite de nombreux habitants. Sport football éliminatoire mondial 2026, troisième journée. Les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent demain, vendredi, à 19h, les Panthères du Gabon au stade Amadou Gonkoulibaly de Korogo. En conférence de presse d'avant-match tenue aujourd'hui, jeudi, le vice-capitaine Franck Yannick Kessier assure que ses coéquipiers, lui, veulent gagner ce match pour occuper la première place du groupe F. Surtout qu'ils ont perdu leur dernière confrontation contre le Gabon à Boaké. On l'écoute.
Déjà, le Gabon est une très bonne équipe de football, même si elle n'a pas participé à la Coupe d'Afrique 2023. Elle reste une grande équipe avec des très bons joueurs, des joueurs de qualité. Et nous, le Gabon a 6 points comme nous. Et c'est un match pour nous, c'est un match très important, surtout qu'on joue la première fois ici à Bourgogne. Donc on veut être sur une bonne note ici. Et aussi, on veut être premier du groupe. Après, bien après qu'on a perdu contre le Gabon. C'est le foot. On aimerait cette fois-ci avoir les 3 points et montrer qu'on est chez nous et aussi faire savoir les titres qu'on a gagnés il y a 3 mois. Entre que nous sommes la première équipe en ce moment africaine. Donc on se doit de gagner le match ici pour être aussi premier du groupe.
Franck Yannick Kessier, vice-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le chef de l'État ivoirien adressera le 18 juillet prochain un message sur l'état de la nation devant le Parlement qui sera réuni en congrès à Abidjan. Dans cette édition, vous avez suivi l'intervention de la société civile sur leurs attentes. Politique minière, pétrolière et énergétique, enjeux, perspectives, défis et perspectives. Ce thème était au centre de la tribune dénommée les rendez-vous du gouvernement organisés par le CICG à Abidjan. Vous avez eu les détails dans ce journal. Fin de cette édition. L'information sera de retour demain, vendredi, à 7h. C'est l'heure de votre magazine Santé Poto sur Radio de la Paix. Merci et bonsoir.
Santé pour tous. Santé pour tous. Tous les jeudis, Paul-Bénédicte Bolou pilote le rendez-vous consacré à la santé et au bien-être. Interviews, reportages et dossiers ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Même si le sujet reste encore tabou,